cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 7 janvier 1993.
Nous reprenons avec courage l'entrée en métaphysique, en philosophie première. Alors demandons hommage, puisque nous sommes juste après l'épiphanie, de nous donner la soif de la vérité. Je crois qu'on doit demander cette grâce constamment à l'Esprit Saint de comprendre qu'on doit être de plus en plus conquis par la vérité, attiré par elle. Les trois sagesses impliquent la recherche des trois vérités.
Se tait.
différent. Mais j'en conseille très vivement de prendre ces mœurs-là. Parce que si on veut approfondir la philosophie, c'est-à-dire faire de la philosophie sérieusement, on doit apprendre petit à petit ce que c'est que la méditation métaphysique, pas transcendantale, mais métaphysique. Réfléchir sur nos activités, être lucide dans nos activités. Qu'est-ce que c'est qu'écouter un cours de métaphysique? On écoute un cours de métaphysique pas de la même façon qu'un cours d'éthique, qu'un cours de philosophie de l'art ou que la théologie. On est quand même attentif à ce que représente la lucidité de notre acte intellectuel. Il faut que notre philosophie imprègne toute notre vie. On ne vit pas au niveau philosophique. Faisons attention, hein. On vit au niveau chrétien. C'est-à-dire, on n'a qu'un seul désir, conformer notre volonté à la volonté du Père. Mais on sait que cette volonté du Père nous demande de faire des actes héroïques une ou deux fois par semaine pour écouter le cours de métaphysique avant le petit déjeuner. Acte héroïque pour ceux qui ont très très faim. C'est vrai, pendant le carême, c'est excellent. C'est un excellent carême, faire de la métaphysique avant le petit déjeuner, pas se précipiter comme le bon chien qui a faim et qui se précipite sur la casserole. Prendre le petit déjeuner est un acte chrétien. C'est un acte chrétien. On prend son petit déjeuner en fils de Dieu. Et non pas comme des... comme des animaux, quoi. Mais comme des fils de Dieu. Et donc, on le fait avec liberté. Au-delà de l'instinct qui se précipite sur le pain, sur le miel, les jours de fête. Le petit déjeuner est une belle liturgie. Assez particulière, mais c'est une liturgie. C'est dit dans les constitutions dominicaines que les repas doivent être une liturgie. Ça ne veut pas dire que vous devez marcher pontificalement pour prendre votre petit déjeuner. Je ne vous demande pas ça. Mais je vous demande, on se tait, on prend son petit déjeuner en présence de Jésus. On est invité à sa table. C'est pas si mal. Invité à la table de Jésus. C'est bien. Alors on fait un petit peu attention. C'est tous nos actes de la journée. C'est ça comment la philosophie pénètre tout. On fait la philosophie et la métaphysique spécialement pour voir comment notre intelligence a quelque chose de sacré. Vous voyez, c'est la découverte du sacré dans l'intelligence. C'est ça le grand but de la philosophie, qui n'est plus fait du tout aujourd'hui, hélas. La philosophie comme en Sorbonne ici. Je respecte la Sorbonne. Il y a des choses très bonnes qui sont en Sorbonne, excellentes, et qui sont à un niveau très souvent historique. Et non pas dans une recherche de vérité. Quelques-uns cherchent la vérité, heureusement, mais pas beaucoup. La plupart cherchent une méthode. Une fois qu'on a une méthode, on a une philosophie. On identifie méthode et philosophie. Ce qui est terrible, parce que ça, c'est la logique. La méthode, c'est le fruit d'une logique. Alors, on identifie ça. Je connais un professeur, c'était à Fribourg, qui disait la différence entre la philosophie grecque et la philosophie XVIIIe siècle, c'est que pour un grec, la connaissance objective a une signification. Pour un moderne, c'est l'application d'une méthode. Vous comprenez que c'est pas philosophique, hein, ça. L'application d'une méthode, comme un psychanalyste. L'application d'une méthode. On ne cherche pas à guérir, on cherche l'application d'une méthode pour voir si c'est efficace. Alors, le malade en fait tous les frais. Hein. Et c'est ici, c'est notre intelligence qui en fait tous les frais. Notre intelligence, je ne dis pas notre raison, arriver petit à petit à bien discerner les deux. Cette distinction entre la raison et l'intelligence. Vous voyez, la distinction de Pascal, si vous voulez, parce que Pascal, c'est affectif, alors on comprend mieux. Il y a l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse. Ça traduit assez bien, c'est passé par Pascal, ce que saint Thomas dit raison et intelligence, ce que Aristote appelait le nous, contemplatif, théorétique, et le nous, logixmos, le nous raisonnant. Raison raisonne, l'intelligence contemple. C'est pas la même chose. Il faut arriver petit à petit à faire que notre intelligence émerge du raisonnement, sans le mépriser, sans le rejeter. Voyez, faites cette petite distinction très simple. Ceux qui ont déjà un tout petit peu de philosophie entre le devenir et l'être, entre la raison raisonnante et l'intelligence, le logismos d'Aristote. Le nous. L'intelligence étant donnée à l'être et par l'être la contemplation. Tandis que la raison, elle est tout le temps en devenir, elle raisonne. Comme le devenir est dans l'être. Mais émerge, l'être émerge du devenir. Ainsi, l'intelligence raisonne. Il faut qu'il y ait émergence de l'intelligence qui contemple. Et c'est l'intelligence qui est sacrée. Parce que l'intelligence, au dire de saint Thomas, est capax dei. Cette expression très belle de saint Thomas. L'intelligence. Elle est très enfouie, vous voyez. Quand vous dites ça aujourd'hui, dans cette laïcisation de notre culture, dites ça à quelqu'un qui est habitué uniquement à l'histoire de la philosophie. Il ne comprendra pas du tout. Oh oui, on disait ça au Moyen-Âge, mais parce qu'on confondait la philosophie et la théologie. Et qu'au fond, la philosophie était une théologie. Mais aujourd'hui, depuis Auguste Comte, on sait très bien qu'il faut bien distinguer la recherche du comment et la recherche du pourquoi. C'est Auguste Comte qui dit ça. Le comment, c'est toujours dans le devenir. Et le pourquoi, c'est l'éveil de l'intelligence. Capax dei. Elle est capable de découvrir Dieu. Si elle est capable de découvrir Dieu, mon intelligence a quelque chose. avec l'Inde, oui, que l'Inde a pu faire dans certaines traditions religieuses. La vache est sacrée. Il faudrait dire alors que la vache, vous voyez, quand elle beugle, oui, c'est une louange ineffable faite à Dieu. Tandis que quand nous récitons les psaumes, non, ce n'est pas le beuglement de la vache. Oui, c'est toute notre intelligence et notre cœur ordonnés vers Dieu. Alors, c'est ça qui est très important à comprendre, c'est que l'intelligence comme telle ne s'oppose en rien à la volonté, à ce qu'on appelle le cœur. Tandis que la raison est autre. L'intelligence n'est pas la volonté. Elle est distincte, mais elle ne s'oppose pas. Il n'y a pas de position dialectique entre intelligence et cœur. Mais l'esprit de finesse implique l'amour. La vraie recherche de la philosophie, la vraie recherche de la vérité implique le cœur, l'affectivité. Alors il ne faut pas tomber dans une sorte de recherche affective pour elle-même, au plan philosophique, hein. Au plan théologie mystique, c'est différent. Mais distinguons bien la mystique et la philosophie. Autrement, on devient luthérien. Et c'est condamné par l'Église. Je n'ai pas le droit de confondre mystique et philosophie. Je n'ai pas le droit. L'Église condamne le piétisme, le fidéisme. Et le fidéisme, c'est de croire que seule la foi me permet d'atteindre Dieu. Alors, fidéisme pratique, fidéisme spéculatif. Donc, je dirais, voyez, que cette recherche de philosophie que nous faisons ensemble, c'est découvrir ce qu'il y a de sacré au plus intime de mon intelligence et donc de mon âme spirituelle, directement par Dieu. Mon âme spirituelle est faite pour Dieu. C'est dans ce sens-là que la philosophie, c'est, comprenez bien ce que je dis, c'est ce qu'il y a de plus vital en moi. De plus vital naturellement, au plan naturel. La foi est plus vitale que la philosophie. C'est bien évident. Mais la foi ne peut pas s'exercer sans l'intelligence. Chaque fois que vous faites un acte de foi, votre intelligence coopère. Si donc votre intelligence est fêlée par Kant, par le positivisme, par le freudisme, par le nietzschéisme, par Sartre, chaque fois que votre intelligence est fêlée, votre acte de foi grince. Puisque vous ne pouvez pas faire un acte de foi sans que l'intelligence coopère. Et si votre intelligence n'arrive pas à faire la distinction entre raison et intelligence, forcément, votre acte de foi n'aura pas la même liberté. La foi est reçue dans l'intelligence. Elle est reçue dans l'intelligence. En rouge, parce qu'elle est reçue à travers le sang du Christ. Votre foi est reçue à travers le sang du Christ comme la grâce. La foi n'est pas reçue dans la raison. Pas directement. La foi ne modifie pas la structure de mon intelligence. Donc, la foi résonne en théologie mystique. Je résonne en théologie biblique. Donc, la foi reçue dans l'intelligence va transformer mes raisonnements. Mais elle n'est pas reçue directement dans ma raison. Elle est reçue dans l'intelligence par l'amour. Le point de départ de la foi, c'est un acte d'amour. Concile d'Orange. Vous pouvez oublier. C'est pas pour rien que c'est le Concile d'Orange. Quand vous passez par Orange, pensez à ça, un Concile d'Orange. Pour que la France cartésienne comprenne que, de fait, il y a l'amour au point de départ de la foi. Vous ne pouvez pas faire un acte de foi sans amour. Un premier amour. Je ne veux pas dire que la foi est toujours liée à la charité. Mais dans tout acte de foi, il y a un premier acte d'amour qui permet à l'intelligence de s'ouvrir à la foi. S'il n'y a pas d'amour, mon intelligence se ferme à la foi. Et c'est la raison qui s'oppose à la foi. Écoutez les raisonnements de ceux qui disent qu'ils sont athées. Quand vous en rencontrez, on en rencontre aujourd'hui, vous connaissez tous. Tous, vous avez un ami, un cousin, un vieil oncle qui est athée, quoi. Vous avez sûrement cherché bien, vous verrez. Et discutez avec lui. Vous verrez que tout de suite, il opposera à la fois un raisonnement. Il faut dire, mais soyez intelligent, mon vieil oncle. Soyez intelligent. C'est pas la raison qui fait l'intelligence. Posez un acte de un jugement. Est-ce que vous existez? Vous êtes capable de dire je suis? Il faut dépasser. Par les raisonnements, vous n'atteindrez jamais la foi. Jamais, jamais, jamais. Tandis que par le raisonnement, par le jugement, c'est différent. Il faut comprendre que l'intelligence doit s'ouvrir à la foi. Eh bien, la philosophie qu'on fait, oui, c'est à la paille de fer qu'on vient empêcher vos raisonnements, votre intelligence, d'être ligotée à la logique, d'être ligotée à la dialectique, d'être ligotée au raisonnement et de ne jamais se séparer de cela pour redécouvrir ce qu'il y a de fondamental en vous, l'intelligence. Et en redécouvrant l'intelligence, votre intelligence s'ouvre à la foi. C'est ça qui est très beau. Vous voyez, Platon disait que le philosophe était une sage femme. Pour assister à la naissance de l'enfant. C'est très beau comme métaphore, hein. C'est métaphorique, comme métaphore poétique, c'est très très beau. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la philosophie doit permettre à mon intelligence de se libérer de ce carcan terrible de la logique, de la dialectique, des raisonnements positivistes. Se libérer du positivisme dans lequel on est ligoté pour arriver enfin à être intelligent et pas tout le temps raisonner, ne pas confondre, ne pas identifier intelligence et logique, intelligence et raisonnement, intelligence et méthode. Il n'est pas intelligent celui-là, il n'y a pas de méthode. Qu'est-ce que ça veut dire? La méthode, c'est la carcasse intellectuelle extérieure. C'est comme si vous receviez un cadeau et que vous identifiez l'enveloppe extérieure. dedans. Ou bien il y a un livre précieux. Mais c'est quand même le cadeau que vous regardez pas l'enveloppe. Ne jugez pas selon les apparences. Les apparences, le raisonnement, la logique, la méthode. La méthode est une apparence. C'est Descartes qui a inventé la méthode. Elle existait chez Aristote. Mais Aristote en parle très peu en logique. C'est tout. Tandis que lui, c'est nécessaire à sa métaphysique. Il ne peut pas se séparer de la méthode. Et Heidegger tombe dans le panneau. Et toute la pensée moderne tombe dans le panneau avec la dialectique. On ne sépare pas le nous de la méthode. Donc l'emballage fait partie du cadeau. Et il est le cadeau. Si quelqu'un faisait ça, vous écoutez, soyez un petit peu intelligent, regardez. Et tout le monde fait ça avec l'intelligence et personne ne dit, mais soyez intelligent. C'est curieux ce monde hein, dans lequel on est. On identifie l'extérieur, l'emballage, la méthode et le contenu. Ce qu'on recherche, la vérité. Donc, on fait la philosophie, voyez, pour être intelligent et découvrir le caractère sacré de l'intelligence, capable de remonter jusqu'à Dieu. Et le jour où votre intelligence remontera vraiment jusqu'à Dieu, elle se libère de l'emballage, elle se libère de la méthode, elle se libère de la logique, elle se libère de tous les raisonnements. Elle ne les rejette pas. Oh non, non, c'est très utile. Elle se libère du devenir et touche quelque chose d'éternel. Mais ça met du temps. Surtout si c'est très bien emballé depuis déjà 10 ans. Les emballages qui datent 10 ans, 20 ans d'emballage, merveilleux emballage, rajeunis tous les ans avec une couleur nouvelle, mais c'est toujours l'emballage. Et l'intelligence derrière, elle crie, elle crie, elle crie, les gémissements d'Esprit Saint. Et il y a des gémissements d'Esprit Saint qui sont justement l'intelligence qui étouffe, qui étouffe. Vous savez bien, quand l'enfant ne peut pas naître, au bout d'un certain temps, il étouffe et meurt. L'emballage est tellement fort. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. L'intelligence agonise dans notre monde d'aujourd'hui, dans notre culture d'aujourd'hui. L'intelligence agonise et on doit la libérer. Alors, on dit, faut le cœur, attention, votre cœur restera un cœur sensible et lié tout simplement à la sensibilité tant que vous n'aurez pas libéré votre intelligence de tous les raisonnements, de tout l'emballage. Et en libérant l'intelligence, vous permettez à votre cœur d'aimer vraiment. Alors vous faites plus d'opposition entre intelligence et cœur. Vous comprenez que l'intelligence est au service de la volonté et du cœur. Mais que s'il n'y a pas l'intelligence, vous resterez à l'âge de 14 ans ou de 12 ans toute votre vie. Ce sera uniquement le miel. Ah, le miel. Ce qui est doux, c'est le miel. Oui, mais le petit livre, il est doux. Il est amer. Je ne veux que le tout. Ah, je ne veux que le tout. Tout ce qui n'est pas doux est violent. Mais non. Le royaume de Dieu est au violent. Jésus le dit. Prenez votre glaive. Le Seigneur le dit. Qu'est-ce qu'il y a une épée? Prenez-le. Et quand il s'en sert mal, le bon Pierre. Il s'en sert mal. Remets le fou. Le glaive dans le four parce que tu t'en sers mal. Parce que la place d'avoir la subtilité de l'intelligence. raisonnement, le cheval de labour, le gros raisonnement étouffe l'intelligence. Alors vous avez le gros raisonnement qui étouffe l'intelligence, et d'autre part, de l'autre côté, votre affectivité sensible, qui demeure une affectivité purement sensible. Et à la place d'être structuré jusque dans votre intelligence, jusque dans votre volonté, la structure pour vous, c'est le raisonnement, c'est la méthode, et ce n'est pas l'habitus de l'intelligence, ce n'est pas l'intelligence qui se libère elle-même en recherchant la vérité. Donc vous comprenez pourquoi nous faisons un peu de philosophie. Je dis un peu. On allume petite allumette. On fait que, on éveille. Oui, si à la fin de la première année, l'intelligence est éveillée, c'est beaucoup. Puis la seconde année, puisqu'elle est éveillée, on la réveille une seconde fois, un peu plus vite. Et puis petit à petit, mon intelligence se structure. Mais il faut du temps. Il faut beaucoup de temps. Parce qu'on respire un air empoisonné. Alors si on ne fait pas grande attention, très vite, on redevient un air empoisonné. On redevient empoisonné comme l'air dans lequel on est. La métaphysique, c'est le sommet de la philosophie. C'est pour ça qu'on dit philosophie première. Première, c'est-à-dire la plus parfaite. Celle qui permet à mon intelligence de découvrir explicitement l'existence d'un être transcendant. Découvrir qu'il existe nécessairement un être premier. La métaphysique garde le mode du raisonnement. En touche quelque chose de réel. C'est pas la même chose un beefsteak recomposé et un beefsteak qui sort directement de l'animal. Pas la même chose. Voyez, le devenir et l'être. Pour arriver peut-être à discerner ça, et on entre en métaphysique par là. Ceci est. Et la métaphysique, parce que on garde le raisonnement, je sais que ce jugement d'existence, ceci est, est encore quelque chose de très confus. C'est très très confus. Et je veux arriver à discerner parfaitement l'être de sa gangue de devenir, de sa gangue physique complexe. Pas du tout la nier. Si je la nie, il n'y a plus rien. Parce que toutes les réalités que j'expérimente, elles sont dans le devenir. Si je nie le devenir de cette table, qu'est-ce qui reste ? Rien. Donc, je ne veux pas, ça serait Heidegger. Ce serait l'étang. Alors, je supprime le devenir, il ne reste rien. Alors, qu'est-ce qui reste ? Ma pensée qui a nié. Et mon intelligence commence à naître par la négation. Tout le dialectique. Tandis qu'au contraire, ma pensée commence à naître par le toucher, par l'expérience. Et c'est à partir de la réalité qui devient que je saisis ce qu'elle est. Mais c'est beaucoup plus complexe. Alors, j'essaie de faire que ce jugement d'existence qui va être toujours présent dans mon enquête philosophique, ceci est toujours présent. Alors, autant que possible, prenez votre corps, parce que c'est ce qui accompagne le mieux votre recherche. Vous pouvez prendre aussi votre âme, parce qu'elle aussi implique de tenir. Mais, voyez, c'est moins immédiat, hein. C'est plus profond, mais c'est moins immédiat. Alors, vous pouvez prendre les deux. Jugement extérieur, ceci est. Et au-delà de ceci est, de ma peau, il y a mon âme. Mon âme est présente dans ma main. Et mon âme est présente au plus intime de moi-même. Alors j'ai deux types d'expériences. L'expérience externe qui implique les sens externes, qui implique le toucher. Puis l'expérience interne. Et la méta-expérience est au-dessus. Je vois que n'existe parfaitement que ce que je touche. Existe en second lieu ce que intérieurement je vis, je pense, j'aime. C'est second. C'est beaucoup plus profond et c'est second. Et donc, le second dépend du premier. Et j'aurai toujours soin qu'est-ce l'être ? La métaphysique, la philosophie, c'est-à-dire l'analyse, va commencer. Tant que je reste au jugement d'existence, je reste en présence d'une réalité confuse. Confuse dans son exister. En acte, mais confuse. L'être de cette table, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que l'être de cette table ? L'être de ma peau, de mon corps, qu'est-ce que c'est ? Puisque l'être de mon corps n'est quand même pas le même que l'être de ma pensée qui se pose la question ou qui juge ceci est. Ça va bien plus loin. C'est méta-expérience. Donc c'est au-delà de l'expérience. Alors je pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Et quand je pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Je vois qu'il y a déjà quelque chose d'extraordinaire. Je passe du ceci est, où être est relatif à ceci, à cette libération de l'être par rapport à ceci. Qu'est-ce l'être ? Je ne dis pas qu'est-ce le ceci. Non. Qu'est-ce le ceci n'est pas la philosophie première. Je renvoie à la vache. Puisque le ceci peut être la vache. Je renvoie à l'homme dans sa vie. Ça peut être l'homme vivant. Ça peut être aussi l'œuvre d'art, la table. Je renvoie à la philosophie première. Le ceci me renvoie à toutes les parties de la philosophie antérieure. Tandis que l'être, ah, c'est nouveau. Je ne suis pas encore posé la question. Qu'est-ce que c'est que l'être ? L'être est au-delà du ceci. C'est énorme, ça, de penser ça. L'être est dans le ceci, mais il est au-delà. Je thématise l'être dans un langage moderne, on dit ça. C'est-à-dire, je l'isole et je le mets en présence. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Qu'est-ce que c'est que l'être ? Qui n'est pas le ceci ? Qui n'est pas ce que je touche directement ? Qu'est-ce que c'est que l'être ? Mon interrogation, qu'est-ce que c'est ? Je sais, alors, ça c'est présupposé connu, je sais que les interrogations sont diverses. Et quand je pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Puisque c'est une interrogation, elle est consciente, elle est lucide. C'est mon intelligence qui pose là. Je sais qu'est-ce que c'est que l'être peut s'entendre de diverses manières. Qu'est-ce l'être ? Ça peut s'entendre selon la forme, selon la matière, selon l'origine, selon la finalité. Ceci est présupposé connu. C'est une analyse critique. J'ai essayé de comprendre où se situaient exactement mes interrogations. Oui, les quatre. Qu'est-ce selon la forme, selon la matière, selon l'origine, selon la finalité ? Pour en ajouter une cinquième, selon le modèle. Mais en métaphysique, je laisse tout de suite tomber la causalité exemplaire. Parce que vous n'avez pas d'exemple. N'avait pas de modèle dans l'ordre de l'être. Vous avez des modèles dans l'ordre des idées. Ah oui, dans l'ordre des idées. Des idéas, créatrices. Vous avez un modèle. Vous n'aimez que le XVIIe siècle. Que les dames du XVIIe siècle. Dames du XVIIe siècle. Hein. Non, mais elle n'a pas de style. Elle est métaphysique. Et donc la causalité exemplaire disparaît et il n'y a plus que la réalité existante. Je me pose ces quatre questions. Eh bien, toute la métaphysique dans sa structure scientifique, c'est répondre à ces quatre interrogations. Qu'est-ce que c'est que l'être ? selon la forme, c'est-à-dire selon sa détermination, selon la matière, son fondement, selon son origine, selon sa finalité. Or, nous avons vu, je ne le reprends pas parce qu'on l'a fait au semestre précédent, que en réalité, il n'y a que deux réponses. Puisque selon la matière, pas de réponse. Selon l'origine, pas de réponse. Donc, il n'y a comme réponse que selon la forme et selon la finalité. Selon la forme, je découvre l'ousia, la substance. Qu'est-ce qui est premier dans l'ordre de la forme, dans l'ordre de la détermination, au point de vue de l'être? C'est ce qu'on appelle l'ousia, ce qu'on appelle la substance. La substance est source de toutes les déterminations. Et la finalité, c'est l'être en acte. Et l'être en acte a diverses modalités. Alors, les cinq modalités de l'être en acte. Dès que je découvre la substance, je découvre que la substance se distingue des accidents. Or, les accidents, c'est ce que je saisis directement avec mon expérience. Les apparences. L'emballage, c'est accidentel. Il y a des emballages qui sont plus ou moins beaux, donc qui ont une qualité. Il y a des emballages qui n'ont aucune qualité, qui sont là uniquement pour être des gardiens, empêcher que ce qu'on met dedans comme objet soit abîmé. C'est un emballage de fer, un emballage métallique, aucune beauté. C'est quantitatif. Et ainsi de suite, vous voyez, tous les accidents, c'est l'emballage. Il y a quelque chose d'autre, au-delà des apparences, il y a la réalité, la substance. Et l'être ne se ramène pas à la substance. Pourquoi ? Parce que l'être que je constate, que je saisis, qui est fondamental dans l'ordre de la détermination, n'est pas la fin de l'être. Alors là, c'est le grand passage de la détermination à la finalité. Le passage de la forme à l'acte. C'est un passage énorme, énorme. Entre l'interrogation qu'est-ce selon l'être selon la forme, qu'est-ce l'être selon la fin. Il faut que cela prenne une signification. Des deux côtés, il y a le dépassement du devenir. Je dépasse les accidents, je dépasse les virtualités potentielles de la réalité. Son devenir. Quel est le devenir dans l'ordre de l'interrogation? Qu'est-ce que c'est que l'être selon la fin? Selon la fin, qu'est-ce qui est proche de la fin mais qui n'est pas la fin? C'est tout ce qui en vous vous dispose à la fin, vous oriente vers la fin, vous met tout proche de la fin mais n'est pas la fin. Alors, il y a un discernement qui se fait là, grâce à une induction. C'est par une induction que je passe de l'accident à la substance, de l'imparfait au parfait, de l'être en puissance à l'être en acte. Et je découvre à ce moment-là l'être en acte comme ce qui finalise l'être, ce qui l'être en tant qu'être. Non pas ce qui caractérise tel être, mais l'être en tant qu'être. Ce qui caractérise tel être, c'est ceci. Ce qui caractérise l'être en tant qu'être, c'est lorsque j'ai posé la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Et je dis que c'est la découverte de l'un. L'un est propriété de l'être. Donc, l'un... Allez, alors c'est ça qui est très très curieux. La propriété est entre l'accident et la substance. Entre l'emballage et l'objet caché, il peut y avoir de la ouate. Aujourd'hui, on fait des emballages comme ça. Parce que c'est un objet très très précieux. C'est une statue qui risque de se casser. Alors il y a l'emballage, puis la ouate. Vous enlevez l'emballage, mais la ouate. Tiens, on m'envoie de la ouate. Ah ouais, c'est curieux. C'est très curieux. Quelle drôle d'idée de m'envoyer ça. C'est une espèce d'imbécile, creuse un peu, tu verras qu'il y a derrière. Tu... Et puis autour de tout ça, qu'est-ce que vous trouvez ? Une petite pièce d'or de 10 francs. Bien emballée, merveilleusement emballée. Petite pièce d'or de 10 francs, pas plus. Ah, ah, ah oui. Alors est-ce que c'est une blague qu'on a faite ou bien... Non, non, c'est une idée géniale. On a entouré l'or de comme ça, de ouate, pour être sûr que ça ne s'abîme pas, que ça reste dans la fraîcheur. Alors vous reprenez l'ordre inverse. Vous avez dit quoi ça? Oui. Il y a la pièce d'or qui est enveloppée de ouate pour qu'elle ne s'abîme pas. Puis l'emballage. Entre l'emballage et la pièce d'or, il y a quelque chose d'intermédiaire, ce qu'on appellera le domaine de la propriété, qui fait le lien entre la substance et l'accident. Et qu'est-ce que c'est que la propriété de l'être en tant qu'être ? C'est l'un. Quelle est la propriété de l'être